L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Bruno Flochon, président d'Espéranto France, à propos du congrès européen d'Espéranto qui aura lieu du 8 au 12 mai, donc 2024, à l'Université de Strasbourg. Bruno Flochon, bonjour.
Bonjour.
L'Espéranto, langue internationale créée pour être apprise rapidement à base d'un lexique et d'une grammaire simplifiée, connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Comment alors est né l'Espéranto pour commencer cette interview ?
Alors, l'espéranto est né officiellement en 1887, date de publication du premier livre sur l'espéranto par donc Louis-Lazare Zamenhof. Mais cette idée germait dans sa tête depuis longtemps, lorsqu'il était adolescent. Il a déjà rédigé tous les principes de base de cette langue pont entre les peuples. Et malheureusement, lorsqu'il est parti au service militaire, son père, qui désapprouvait cette démarche, qu'il considérait se faisait au détriment de ses études, a tout brûlé. Donc, pour autant, ça ne l'a pas découragé. Donc, de retour du service militaire, il s'est marié, il a réécrit tout son projet de langue et il a pu éditer et diffuser ce premier livre en 1887.
Alors, Louis-Lazare Zamenhof, 1859-1917, c'était il y a un moment déjà. Il était juif, né dans une famille juive. Il parlait parfaitement le yiddish, c'était son moyen de communication. L'espéranto, pour lui, c'était l'idée de faciliter. Il y a quelque chose de presque utopiste. On parle souvent de la fameuse tour de Babel, à un moment donné où les langues ont divisé les peuples. C'était une idée de réunir et de pouvoir parler tous la même langue.
Exactement, c'est tout à fait cette idée d'un humanisme qui permette de rapprocher les peuples et surtout d'éviter qu'ils continuent à se taper dessus. En résumé, il voyait autour de lui beaucoup de conflits, beaucoup de querelles, dont une partie était basée sur des différences de langue. L'endroit où il vivait, hein, Bialystok, il y avait évidemment, lui il avait de l'origine en Lituanie, il y avait la Russie, la Prusse à l'époque. Il y avait différents peuples qui se côtoyaient et bien sûr aussi les Juifs hein, de sa famille d'origine. Et il voyait ces conflits en se disant « mais si seulement on avait une langue commune, pas une langue unique, mais une langue commune entre ces populations, peut-être qu'il n'y aurait plus tous ces conflits ». Donc c'était vraiment ce qui a guidé la rédaction de ce projet de langue pont. Et dans une idée vraiment d'accessibilité, donc que ce soit le plus simple possible, le plus facile à apprendre, quel que soit son niveau intellectuel, son niveau d'études.
Alors, ça prend un petit peu de toutes les langues, parce qu'elle est parlée dans 170 pays par une partie hein, de la population, des gens comme vous qui ont fait la démarche de l'apprendre pour communiquer. J'imagine que vous êtes une grande communauté, j'allais dire presque une diaspora à travers le monde, on dit beaucoup ça dans la communauté juive.
C'est vrai.
Quel est le vocabulaire, quelle est la grammaire qui a été retenue ? Alors, l'italien, de l'espagnol, le français, on imagine qu'avec toutes les règles d'exception qui existent, pas forcément retenu.
Alors, il a puisé principalement dans les langues latines,
ouais.
Mais pas seulement. Il y a aussi quelques mots qui viennent du grec, d'autres qui viennent du russe. On voit aussi des mots clairement d'origine germanique. Mais ce qui a guidé le choix du vocabulaire, c'était vraiment l'accessibilité au plus grand nombre. On ne peut pas faire une langue égalitaire, ce n'est pas possible. Nous avons tous des cultures, des langues différentes, avec tout un patrimoine qui est riche, qu'il faut préserver, mais qui fait qu'on ne va pas apprendre l'espéranto à la même vitesse selon si on est chinois, espagnol, japonais, français ou allemand. En revanche, ce qui est commun à tous, c'est de pouvoir accéder à cette langue de communication de façon la plus facile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre langue, quelle que soit sa langue maternelle, qu'on puisse apprendre plus vite que l'espéranto. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une langue équitable. Elle met tout le monde sur un pied d'égalité. C'est-à-dire chacun fait un pas pour aller l'apprendre, hein, en plus de sa langue maternelle, puis peut-être aussi en parallèle d'autres langues. Mais au moins, c'est sur un principe vraiment d'accessibilité, parce que la règle qui a conduit au choix des mots et à la grammaire extrêmement régulière, c'est vraiment cette accessibilité.
Je le disais, 170 pays à travers le monde qui pratiquent l'espéranto. Elle est, elle est, j'allais dire, transcrite dans les différents alphabets qui existent à travers le monde. Alors, on le sait, l'alphabet latin chez nous, oui, mais les autres alphabets, l'alphabet alors, hébreu, l'alphabet russe, l'alphabet grec, est-ce que, effectivement, elle est transposable dans tous les alphabets du monde ?
Alors non, l'espéranto a son propre alphabet, qui est donc avec les lettres latines.
Oui.
Mais bien sûr qu'il existe des dictionnaires, des lexiques dans de nombreuses langues, évidemment, nombreux types de caractères. Et pour s'en convaincre, il suffit de faire un petit tour sur des célèbres traducteurs automatiques en ligne qu'on trouve, que tout le monde utilise. Et vous serez peut-être surpris, mais vous verrez que parmi les dizaines de langues disponibles, il y a l'espéranto. Donc amusez-vous, depuis une langue que vous connaissez, mettez un petit texte et mettez la traduction et vous verrez, traduction en espéranto fonctionne parfaitement bien. Comme d'ailleurs, aujourd'hui, avec les générateurs d'intelligence artificielle, on peut demander de parler et de discuter en espéranto. C'est assez surprenant, mais ça fonctionne très bien.
Quel est le pays, justement, où on pratique le plus l'espéranto ?
Alors, on n'a pas de statistiques exactes et c'est toujours difficile d'estimer le nombre d'espérantophones pays par pays ou même au global, puisque ça reste quelque chose d'une démarche volontaire, plutôt du registre du loisir. Il y a très peu de personnes qui exercent professionnellement grâce à l'espéranto. Mais dans ce cadre, ce qu'on estime, c'est que donc il y a quelques millions de personnes qui l'ont appris et qui le parlent aujourd'hui. Mais là où il y a un vrai dynamisme aujourd'hui, c'est en Amérique latine, notamment au Brésil. Et c'est aussi dans certains pays d'Asie, comme par exemple le Vietnam. Et puis, bien sûr que de façon un peu générale, les réseaux sociaux facilitent la découverte et la diffusion de la culture espérantophone avec des vidéos en ligne, avec les réseaux d'images en ligne qui font que beaucoup de jeunes ont aujourd'hui la possibilité aussi de publier, de tester, de faire de publier de la musique, des chants, des jeux, des mèmes, ce qui font qu'il y a un regain, on va dire, de l'espéranto grâce à la facilité d'accès des réseaux sociaux.
Je parlais de regain depuis, on disait, depuis 2015, 2012 précisément. On va retrouver les chiffres. Vous l'expliquez comment ça, justement, vous parlez des réseaux sociaux. C'est la facilité de communiquer avec des gens de par le monde. Ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a un regain peut-être, on va dire, d'idéologie de ce peuple unique sur la Terre, de terriens en fait?
Je pense qu'il y a plusieurs facteurs et effectivement, ça doit être un cumul de ces éléments. Bien sûr, les réseaux sociaux, c'est vraiment l'outil pratique facile. On a lancé déjà, même avant 2010, des cours en ligne gratuits sur Internet. Mais il y a bien sûr la facilité avec tout un ensemble d'applications. Il y a Duolingo qui a lancé aussi des cours en ligne avec cette application qui est quand même très connue. Et puis, je pense que les jeunes voyageant de plus en plus facilement, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, mais c'est un fait de pouvoir voyager, y compris assez loin, pour un budget très réduit, ce qui n'était pas le cas dans les années 80.
Est-ce que les gens qui pratiquent l'espéranto s'accueillent les uns les autres ?
Alors, il y a ces possibilités d'accueil, soit chez l'habitant, pour ceux qui sont volontaires. Il y a aussi, bien sûr, tout le réseau d'associations d'espéranto qui peuvent donner des informations, quand est-ce qu'ils ont leur réunion hebdomadaire, quand est-ce que l'un des membres peut faire visiter la ville, prêter un vélo, voire héberger. Et puis, des événements comme le congrès qu'on organise dans 2 semaines. Donc, tous ces facteurs font que, quand on voyage, avant de connaître l'espéranto, on s'aperçoit quand même vite que... Non, l'anglais n'est pas parlé par tout le monde, le français non plus, évidemment, on le sait. Mais on se confronte un peu à la réalité derrière des idées que oui, tout le monde parle anglais. Mais sauf que quand on sort de l'aéroport, de la gare, de l'hôtel, voire de l'auberge de jeunesse où on rencontre des étrangers de passage, rencontrer vraiment la population, avoir des échanges, des vraies conversations est beaucoup plus difficile. Et du coup, le réseau espéranto ouvre des portes auxquelles on n'aurait pas accès sans ces contacts.
Alors, vous menez ici à Strasbourg des ateliers pour apprendre l'espéranto à différents niveaux, pour les débutants, pour les gens plus confirmés. Et vous avez, je le disais, ce congrès européen d'espéranto. Ça se passe du 8 au 12 mai, c'est à l'Université de Strasbourg. Le programme précisément de ces jours autour de l'espéranto. Alors c'est des cours, je le disais, pour différents niveaux, mais pas uniquement.
Pas uniquement, nous avons aussi un gros volet axé sur la littérature et les livres, avec des présentations de livres par les auteurs qui vont venir présenter les livres, éventuellement les dédicacer. Donc c'est un programme qui est aussi inscrit dans Strasbourg, capitale mondiale du livre 2024. Et puis des concerts qui auront lieu en soirée, en deuxième partie de soirée à la salle du manège. Donc ce sont différentes opportunités de découvrir l'espéranto, la langue elle-même, sa culture, son histoire et puis des côtés plus artistiques. Donc je pense que ça donne un panorama assez intéressant. Et puis évidemment, en étant dans ces lieux-là, en allant pour des cours dédiés aux non-espérantophones, ce sera aussi l'occasion de croiser beaucoup de monde puisqu'on a déjà plus de 500 inscrits à ce congrès.
Oui, c'est énorme. Alors que l'association, vous êtes combien de membres pour l'instant ?
Alors sur Strasbourg, on est entre 20 et 30 adhérents. Hein, donc c'est vraiment un petit groupe local comme on en trouve un peu partout dans les villes françaises. Mais le congrès permet, étant un congrès européen, de faire venir des gens de beaucoup plus de pays. Donc actuellement, on a, je crois, près de 35 pays qui seront représentés lors de cet événement. Donc ça fait quand même un beau succès.
Donc un bel événement pour rencontrer effectivement des gens qui viennent de l'Europe et bien au-delà aussi. Donc ce congrès, ça se passe du 8 au 12 mai, c'est à l'Université de Strasbourg. Il y a des inscriptions à prévoir au préalable ?
Il n'y a pas d'inscription pour venir pour un cours ou découvrir un concert, puisque on est simplement invité. Mais on trouve tout le programme en ligne sur le site d'Espéranto France. Vous avez l'info sur la semaine européenne de l'espéranto à Strasbourg.
Bruno Flochon, donc président d'Espéranto France, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Alors évidemment, vous allez nous dire au revoir avec une petite phrase d'accroche pour inciter les gens à venir à votre congrès en espéranto.
Yes, koran dankon, mi invitas vin por nia evento post du semainon en la Universitato de Strasburgo. Gis baldao.
Comment on dit merci ?
Dankon.
Dankon, Bruno Flochon.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.